Antoine Jiménez, souvenir de la guerre d'Espagne, du 19 juillet 1936 au 9 février 1939, feuilleton radiophonique en 20 épisodes.
Nous allons vous présenter tout d'abord une mise en contexte du récit. La guerre civile éclate le 17 juillet 1936 au Maroc, quand, dans la pure tradition du pronunciamento, l'armée espagnole, soutenue par l'Église et les partis de droite, dont les fascistes de la Falange, se soulève contre la République et le Front populaire, élu en février. Une partie des garnisons d'Espagne répond à l'appel des généraux Franco et Mola. Du 18 au 31 juillet, la moitié centre-ouest du pays et une partie de l'Andalousie sont occupées par les factieux, qui installent leur gouvernement à Burgos. Mais le soulèvement échoue en Catalogne, dans le Levant et dans le Nord, dans une partie de l'Aragon, de l'Andalousie et de la Castille. À Madrid, la République reste en place, mais le gouvernement refuse d'armer le peuple, commence à négocier avec les mutins et doit démissionner.
En fait, la République est dépassée par la situation et les seules forces organisées qui font face aux militaires insurgés sont les militants politiques et syndicaux. Ils décrètent la grève générale et s'arment tant bien que mal. C'est la population organisée en milices qui prend d'assaut les casernes à Madrid, Guadalajara, Toledo, Valencia, Oviedo, San Sebastián, à Bilbao et Gijón. La victoire la plus éclatante se produit à Barcelone. Après des décennies de grèves insurrectionnelles et le refus du Front populaire de mettre en œuvre les réformes sociales promises, les travailleurs des principales villes ouvrières se retrouvent en situation de prendre enfin leur existence en main. Le coup d'État va en quelque sorte impulser la révolution espagnole, la guerre civile représentant le moment culminant de la guerre sociale engagée dans ce pays. Le soulèvement militaire est provoqué par les classes dominantes et la fraction la plus riche des classes moyennes. Elles ont su mettre leurs divergences sous le boisseau afin d'en finir radicalement avec les dernières révoltes organisées des ouvriers et paysans de l'Europe de l'Ouest. Elles ont la confirmation rapide que les démocraties les laisseront mener cette guerre. Dès le début de la Révolution, des navires italiens, français, allemands et anglais croisent au large des côtes de Catalogne et bientôt se tiendra à Londres la première réunion du Comité international pour la non-intervention. Il est clair que la France et l'Angleterre feront l'impossible pour étrangler la Révolution espagnole. Dans l'Espagne de 1936, se pose la question de savoir comment la seule population en Europe qui lutte à la fois contre les rapports sociaux capitalistes et le fascisme va se confronter à l'épineuse question du pouvoir.
À Madrid, l'État et le nouveau gouvernement se retrouvent privés de leurs moyens d'action. Dès le 19 juillet, dans toute l'Espagne restée républicaine, dans les villes comme dans les campagnes, et surtout à Barcelone, où les anarcho-syndicalistes de la Confédération nationale du travail sont maîtres du terrain, la population participe massivement et spontanément à la suppression de la propriété privée et à tout ce qui rendait possible l'exploitation de l'homme par l'homme. Autrement dit, elle exproprie les expropriateurs. De jour en jour, dans la capitale catalane, une partie des entreprises et ateliers, des commerces et transports, des services de distribution et de communication, de santé et d'éducation, des cantines, hôtels, restaurants, sont collectivisés et remis en marche. Une partie des biens des capitalistes, espagnols comme étrangers, sont saisis et des immeubles réquisitionnés. les comités de quartier et les comités d'usine forment un réseau qui contrôle l'agglomération. L'armée et la police ayant disparu, il n'y a plus d'autre autorité que celle de tous. Cela ne se fait pas sans violence individuelle ou collective, à l'encontre des représentants de l'Église, des propriétaires fonciers, des patrons et capitalistes. Et si peu qu'on connaisse l'histoire sociale de l'Espagne, on sait pourquoi et à quel point la haine de classe était forte. Beaucoup de symboles du pouvoir religieux, politique et économique sont brûlés, comme des églises et couvents, des archives notariales et cadastrales, des fichiers d'usine sur le personnel. Hommes et femmes s'attaquent notamment aux banques et au feu sont jetés, entre autres choses, des caisses remplies de billets. Cet acte-là signifie profondément que tout retour en arrière est désormais impensable. George Orwell, qui se trouve à Barcelone en 1936, y rencontre, nous citons, des êtres humains cherchant à se comporter en êtres humains et non plus en simples rouages de la machine capitaliste. Ainsi, loin de subir les événements, les travailleurs des villes et des champs passent à un cran supérieur de la lutte et mettent en œuvre les programmes sociaux et politiques révolutionnaires pensés, rédigés et discutés depuis le début du siècle par le plus important mouvement anarchiste de l'Europe du moment. Le récit qui va suivre rend compte à la fois de l'enthousiasme qui règne quand des hommes et des femmes s'engagent corps et âme dans une révolution, mais aussi de l'extrême difficulté à tout mener de front et à rester politiquement lucide quand il s'agit en même temps de faire la guerre. Il faut prendre en compte que beaucoup de situations cruciales doivent être réglées en très peu de temps et sous la pression internationale. Corrélativement, une question essentielle s'impose. Le prolétariat européen va-t-il se sentir concerné et comment va-t-il le faire savoir? Antonio Jiménez, pour sa part, y a répondu, comme nous allons l'entendre.
Quelques mots maintenant sur l'origine du manuscrit. De 1976 à 1982, mon ami et moi fréquentions le milieu libertaire et le groupe local de la Confédération nationale du travail de Marseille. Nous étions imprégnés de l'histoire de la Révolution espagnole de 1936, car nos amis réfugiés espagnols de la CNT en exil faisaient revivre cette période quotidiennement dans des récits, discussions et querelles. Un groupe de la Fédération anarchiste avait un local situé au cœur du quartier historique de Marseille, celui du Panier. Ce groupe, dont faisait partie un jeune couple, Viviane et Fred, tenait des permanences dans ce local loué dans le même immeuble que celui du grand-père de Viviane, Antonio Jiménez. C'est ainsi que nous fîmes la connaissance de cet anarchiste, né dans la région de Pise, italien malgré son nom espagnol, qui avait participé à la Révolution espagnole dans la colonne d'Urruti avec tant d'autres internationaux. Antonio venait de finir d'écrire ses mémoires sur cette période bouillonnante et déterminante de sa vie. Faute de rencontrer l'intérêt des éditeurs, une diffusion restreinte à une dizaine d'exemplaires fut réalisée. Les mémoires d'Antonio rencontrèrent très vite un succès car le récit était vivant, historique et érotique. Nous disposions là d'un témoignage sur la vie sensuelle et sexuelle d'un militant venu se battre en Espagne et participer à un mouvement révolutionnaire où toutes les idées et interrogations devaient être confrontées et expérimentées. Ce document est un des rares témoignages sur les volontaires étrangers qui s'engagèrent dans les milices anarchistes. Il couvre toute la guerre civile de juillet 1936 à février 1939. Le 26 décembre 1982, Antonio nous quittait à l'âge de 72 ans. laissant ce témoignage exaltant que nous avons voulu faire revivre dans ce feuilleton radiophonique. Premier épisode. Le 19 juillet 1936, Antonio Jiménez est à Lérida et se mêle aux événements.
Depuis quelques mois, le curé qui venait régulièrement dire la messe au couvent de Sainte-Claire dépeignait les rouges comme des monstres sans pitié. Véritables démons crachés de l'enfer pour répandre le meurtre, le viol et mille autres atrocités sur la terre entière. Il exhortait les sœurs et les novices à écrire à leur famille, de se préparer à lutter jusqu'à la mort pour la victoire de Cristo Rey. Les premiers coups de fusil, l'éclatement des premières grenades avaient plongé Teresa dans une peur telle qu'allongée au pied du crucifix de sa cellule, elle n'avait même pas entendu les sons de la cloche qui les appelait toutes à la chapelle. Une demi-douzaine de phalangistes et de curés s'étaient réfugiés dans le couvent. Et de là, ils nous avaient canardés. Les partisans du pronunciamiento ne tenaient plus que le fort de Lérida et le séminaire. Des femmes et des enfants se promenaient, curieux de voir ce que la révolution avait laissé comme trace sur les murs de leur ville. C'est alors que les balles tirées au jugé d'une petite ouverture, un espèce de fenestron, blessèrent deux ou trois passants. En quelques minutes, une centaine de militants en armes étaient groupés devant la porte du couvent. Une cartouche de dynamite suffit pour leur ouvrir le passage. Ils se précipitèrent à l'intérieur. Les phalangistes et les curés armés s'étaient retranchés au dernier étage, duquel ils furent abattus, séance tenante. Moi, j'étais absent. Et je le regrette. Car j'aurais aimé voir comment on meurt, les armes à la main, ces hommes qui se disent les représentants d'un dieu d'amour et de justice. Je m'étais arrêté à la chapelle, où tout le troupeau des sœurs et des novices s'était rassemblé, dans l'attente de je ne sais quelle fin horrible, au milieu de tortures et de viols. Mais ce qu'elles craignaient n'arriva pas. Un militant de la CNT s'avança et leur dit « Señoras, no tengas miedo, n'ayez pas peur. Vous allez quitter ces lieux. Vous serez libre d'aller où vous voulez, en France ou chez vous. » Et encadrée par des hommes en armes, elle sortit du couvent. Le lendemain, la majorité des sœurs prenaient le train pour la frontière. Quelques-unes, celles qui étaient d'origine catalane, choisirent de rester, en attendant de pouvoir rejoindre leur famille. La foule, après le départ des nonnes, avait envahi le couvent et le mettait à sac. Les objets les plus hétéroclites s'entassaient sur la petite place. Tableaux, rosaires, cristaux en croix de toutes dimensions, livres d'art, œuvres profanes et sacrées, et jusqu'à des collections de photos que l'on ne s'attend pas à avoir entre les mains d'une mère supérieure d'une congrégation de jeunes filles. Une main se posant sur mon épaule m'arracha à la contemplation des flammes qui dévoraient toutes ces choses, dont quelques-unes peut-être étaient des œuvres d'art. C'était Miguel, un jeune militant des Jeunesses Libertaires, que j'avais connu dans la nuit précédant la riposte du peuple espagnol au coup d'état du général Mola et Franco. Nous avions immédiatement sympathisé, et il avait tenu à me présenter à sa sœur et à sa mère. Depuis, nous ne nous quittions presque plus. Je me retournais vers lui et je lui demandais des nouvelles de son aîné qui était avec nous lorsque nous avions franchi la porte du couvent. Juanita n'était pas loin, et elle n'était pas seule. Une jeune fille, presque une enfant, l'accompagnait. Miguel m'expliqua que sa sœur avait trouvé cette fille dans une cellule du couvent, allongée par terre, à demi morte de peur, devant un Christ en croix. Prise de pitié pour cet enfant, elle avait décidé de la sortir de là pour la conduire chez leur mère, en attendant qu'elle puisse retrouver sa famille. Il me demanda de l'aider à convaincre sa sœur d'abandonner son idée. Je ne sais si la petite nonne me parut mériter que l'on s'occupât d'elle, ou parce que Juanita me plaisait, mais je conseillais à Miguel de faire ce que sa sœur voulait. La gosse s'appelait Teresa, avait 17 ans, et depuis l'âge de 7 ans était cloîtrée. Ses parents l'avaient décidé ainsi pour que toute leur fortune reste au frère cadet. Destinée à entrer en religion, elle ne connaissait le monde que parce qu'en disait le curé dans ses sermons, ou par les récits des novices qui rentraient au couvent à un âge déjà avancé. Un soir, sans qu'on l'interrogeât, elle nous conta son histoire. Quand elle levait les yeux, son regard se dirigeait, comme malgré elle, vers Miguel, qui de son côté ne regardait qu'elle. Le soulèvement à Lérida avait abouti en moins de 24 heures. Le 18 juillet 1936, l'armée avait occupé tous les points stratégiques de la ville. Je me trouvais ce jour-là dans la commune d'Alcaraz, en train de donner un coup de main à un ami dans une ferme de Valmanga, lorsqu'un copain du village vint nous prévenir que l'on se battait en ville. Je partis sur le champ, avec lui en direction de Lérida. En route, d'autres jeunes se joignirent à nous. Nous étions bien une douzaine lorsque nous arrivâmes à proximité de la ville. Les combats avaient cessé. Le silence était total. Une bonne femme, reconnaissant un des jeunes, nous dit que les abords de la ville étaient gardés par les phalangistes. Nous décidâmes de nous séparer et de nous retrouver au siège de la CNT. Étant de nationalité italienne et ne connaissant pas le terrain, je dis à mes amis que je continuais la promenade par la grande route. J'avais une idée.
Il fallait que je rentre par la ville avec la permission de la phalange et leur bénédiction pour pouvoir circuler librement.
Lorsque je fus en vue des premières maisons, je me mis à chanter Giovinezza, d'une voix tellement fausse que tous les oiseaux des alentours s'enfuirent à tire-d'aile. Les paroles, sinon la musique, résonnèrent dans le silence de la campagne catalane comme un défi. La rue était déserte. Je m'y engageai en chantant et je commençais à croire que la garde avait été levée, quand une voix rauque éclata derrière moi. Alto, non ne va usté. Surpris, je me retournai. Un officier de l'armée pointait son revolver sur moi. Non ne va usté. À Lérida, lui répondis-je. Je suis italien, touriste. Un civil armé, lui aussi, prenant la relève, me demanda mes papiers. Je lui tendis mon passeport.
Italiano? Si. Fascista? Avanguardista. Viva Mussolini, me dit-il en me rendant mon passeport.
Je fis le salut romain en disant Eia, Eia, Alala, et je repris mon chemin en fredonnant l'hymne fasciste.
Le siège de la CNT se trouvait dans les combles d'un immeuble dont le premier étage était occupé par les bureaux de la FEDA, un groupement de droite, dirigé par Gilles Robles. Une quinzaine de personnes se tenaient devant la porte d'entrée. Décidé à rejouer la comédie en cas de besoin, je passais au milieu d'elles. Je me demande encore aujourd'hui pourquoi ces gens m'ont laissé passer sans rien me dire. Combien de copains y avait-il ? Des groupes allaient et venaient en discutant. D'autres, assis à même le parquet, autour d'un tas d'une espèce de sable jaune roux, remplissaient les boîtes de conserve et des bouts de tuyaux. Il y en avait qui préparaient des cartouches, avec toute l'application des chasseurs à la veille de l'ouverture. D'autres encore adaptaient les détonateurs à des bouts de mèche. Tout le monde s'affairait, pendant que deux ou trois jeunes femmes circulaient entre les groupes, distribuant des tasses de café. Manuel, que j'avais quitté à 3 km de la ville, était déjà là, bavardant avec un jeune homme, qui tout en parlant crayonnait sur un bloc-notes les têtes de quelques-uns des présents. Manuel me fit signe d'approcher pour admirer le talent de son ami Miguel. Je lui conseillai immédiatement de brûler ses chefs-d'œuvre, car s'il tombait entre les mains de la phalange ou de la police, il permettrait à ceux-ci d'identifier les copains qui avaient servi de modèle. Je lui dis que s'il voulait passer le temps, il pouvait dessiner un paysage avec une jolie fille et prendre pour modèle une jeune femme qui à ce moment-là s'approchait de nous pour nous offrir du café. C'était sa sœur, Juanita. Il me présenta en disant que j'étais amoureux d'elle et que je lui avais demandé son portrait. De là naquit notre amitié. Nous ne nous quittâmes pratiquement plus pendant tout le temps du séjour à Lérida. Le 19 juillet, au cri de Union Hermanos Proletarios, les hommes de la CNT, de la FAI, de l'UGT, du PUM et du Parti Socialiste se jetèrent dans la rue. Les soldats qui quadrillaient la ville se révoltèrent. Les partisans du général Mola et de Franco, qui purent s'échapper avec quelques soldats qui leur restaient fidèles, se réfugièrent dans le château et au séminaire. Des individus isolés trouvèrent asile dans le cloître de Santa Clara et dans les églises. Lorsqu'une société s'effondre, il y a toujours des excès. Comme un animal que l'on a enfermé depuis longtemps et que l'on lâche subitement dans la nature, libre de toute entrave. L'homme a servi depuis des siècles tâche d'assouvir sa faim, de satisfaire ses désirs et ses rancunes. Alors il pille, brûle.
Dans les premières heures de liberté, on pilla. D'abord les armuriers, pour se procurer des armes, puis divers magasins d'alimentation, de vêtements et de meubles.
Je me souviens d'avoir vu emporter la porte d'une armoire à glace par un type habillé d'un pantalon rapiécé et d'une vieille chemise, pendant qu'à côté on mettait à sac la boutique d'un tailleur. Intrigué, je lui offris mon aide pour transporter une autre pièce du meuble. Il me répondit qu'il n'avait besoin que de la glace, car sa femme ne désirait que cela depuis leur mariage. Ceci dit, il faut que je reconnaisse que les syndicats et les autres organisations révolutionnaires prirent vite leurs responsabilités, et tout rentra dans l'ordre. Les ateliers et les usines reprirent leurs activités, les commerces se transformèrent en centres de distribution. Comme dans toute révolte populaire, on avait ouvert les portes des prisons. Mais tous les détenus n'étant pas des prisonniers politiques, on organisa des services de surveillance. Il ne fallait pas que ce qui appartenait à tout le monde fût détourné au profit de quelques-uns. Les consignes de surveillance ne furent pas confiées à des groupes spécialement constitués, mais à tous les ouvriers et militants de la ville. À tour de rôle, des volontaires allaient monter la garde ou patrouiller dans les rues. Le curé, en Espagne et ailleurs, a toujours été l'allié indéfectible du capitalisme. Cura, cacique et guardia civil sont les trois piliers de la société espagnole. Les ouvriers et les paysans étaient des esclaves dont cette trilogie pouvait disposer à son gré. Il suffisait de rentrer en conflit avec un de ces trois représentants de la classe dominante, même pour une cause futile, et le coupable était obligé de se soumettre, ou de partir. S'il résistait, c'était le chômage, la misère, la prison. Les coups de feu, tirés du haut des clochers et du cloître, réveillèrent la haine et la soif de vengeance. La chasse au curé se déclencha. Combien furent tués, je l'ignore. Je me souviendrai toujours de l'un d'eux, taillé en athlète, qui marchant devant deux paysans répétait « Ne me tuez pas par pitié, je suis père de famille. » Une double décharge le projeta la face contre terre. Un de ses meurtriers lui donna le coup de grâce en lui disant « Toma, cabrón !» Moi, je regardais ce qui se passait autour de moi. J'étais sans arme. Dans le pillage d'une armurerie, j'avais bien pu avoir un fusil de chasse. Si mes souvenirs sont exacts, c'était un calibre 16, avec une poignée de cartouches que j'avais brûlées devant le séminaire. Une fois les munitions finies, n'ayant jamais eu des goûts de chasseur et trouvant le fusil trop encombrant, je l'avais refilé à un copain, qui me donna en échange un magnifique poignard. Ainsi, les mains libres et légers comme l'air, je me promenais en regardant ce peuple, ivre d'une liberté toute neuve, essayant de bâtir sa société sur des bases nouvelles. Lorsque quelqu'un me demandait de prendre part à une expédition dans un village ou un bourg voisin où on avait signalé la présence de phalangistes, Miguel et Juanita, qui travaillaient au syndicat, me prêtaient leurs pistolets. Dans ces expéditions, j'ai eu la chance de ne jamais tomber dans une embuscade ou sur des tireurs isolés qui prenaient pour cible les voitures chargées à bloc, transportant des hommes sur les marchepieds et même sur les garde-boue. Généralement, à notre arrivée, les affaires avaient été réglées par les habitants du lieu. Et il ne nous restait plus qu'à fêter la victoire, en trinquant la Revolution, après avoir compté les pertes de l'ennemi et les nôtres lorsqu'il y avait eu combat. Une seule fois, je fus témoin d'une véritable tragédie. Nous traversions un village assez éloigné de l'Erida. Sur la place, nous fûmes arrêtés par une foule en effervescence. Le plus riche propriétaire du pays, que l'on croyait parti à Huesca ou à Saragosse, se cachait dans les caves de sa maison. Découvert, il avait été entouré par les femmes et les enfants de sa famille, lui faisant un rempart de leur corps. Mère, femme, fille, nièce, cousine, que sais-je encore. Une dizaine de personnes, de tous âges, agglutinées autour d'un homme au visage livide, lui interdisaient tout mouvement. Autour de cette grappe humaine, 5 ou 6 individus braquaient leurs fusils, mais n'osaient pas tirer. Voilà le tableau qui se présenta à mes yeux lorsque je pénétrais dans le patio. Tableau bruyant car tout le monde criait, pleurait, gémissait. Puis tout se passa très vite. Une femme s'approcha en courant et en criant « Padre, padre !» À sa main droite, la crosse d'un 9 mm. L'homme la regarda, un flot de sang empourpra son visage. « Consuelo, sálvame, hija mía !» Les femmes et les enfants s'écartèrent devant la nouvelle venue, qui leva son bras et tira. « De la parte de mi madre, » dit-elle. Consuelo était arrivé au village dans la même voiture que moi. Je la connaissais de vue, l'ayant déjà remarqué au cours des premières expéditions. Toujours armée de son revolver. Sa crinière noire est bouclée sur ses épaules, insouciante et rieuse, défiant le danger. Avant la Révolution, elle pratiquait le plus vieux métier du monde, dans le plus misérable quartier de la ville. Avec sa mère, elle tenait une espèce d'échoppe sordide, où les clients pouvaient assouvir leur soif d'alcool et d'amour, pour environ 5 pesetas. Depuis, elle se battait, cherchant toutes les occasions de se bagarrer pour entendre les balles siffler à ses oreilles, et son arme secouer son poignet. La dernière fois que je la vis, elle grimpait sur un camion qui roulait vers le front. C'est étrange comme les souvenirs viennent à moi au fur et à mesure que j'écris. Comme une pelote de laine enfermée dans une boîte, on saisit un brin qui dépasse, et voilà que tout le fil se dévide. Malgré une liberté fraîchement acquise, le libertinage et la débauche n'avaient pas de prise dans la jeunesse révolutionnaire. Celle-ci préférait passer son temps libre à discuter, à étudier, ou chercher les solutions aux problèmes qui se posaient tous les jours dans l'organisation de ce nouveau mode de vie. Les aventures amoureuses étaient plutôt rares. Au hasard d'une halte dans un village où on passait la nuit, une femme à qui on avait pu dire quelques mots d'admiration pour sa beauté venait parfois nous rejoindre. Mais cela était rare, trop rare.
Thank you.